Vous écoutez Kinescopie.
J'ai voulu commencer par un souvenir. Nous sommes en 2016, la première interview de ce projet. Vous allez entendre la voix d'une légende pour nombre de fans de la licence Rayman. C'était en 2016 et j'avais pu passer une soirée à discuter avec Rémi Gazelle, à qui nous devons une partie de la bande originale de Rayman, premier du nom. C'était en 2016. Rémi Gazelle nous a quittés 3 ans plus tard, en 2019, à 53 ans.
Allô ?
Oui,
ça va ?
Attends, hop, je tourne mon micro, hop là.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Oui.
Tu changes de chaussures ?
Ouais,
fait mal.
Je me change, j'étais en moto toute la journée.
Ah.
Et là, c'est plus possible. Pieds nus maintenant.
Bah, du coup, tu veux qu'on aille faire quoi ?
Tu vas voir.
Ok.
Tu peux me dire, mais je vais te proposer.
Hop.
Alors, tu. Si tu veux.
Ouais.
Tu me dis, hein, je sais pas. On va à Cardan.
Ouais.
Plage, tu connais ?
Non, pas du tout.
D'accord. Donc voilà Cardan.
D'accord.
Petite station balnéaire.
Ouais, ça ressemble à. Je sais pas si tu connais Royan. Un peu.
J'ai jamais été à Royan.
Mais ça ressemble un peu en fait.
Le plus proche que j'ai été, c'est quoi ? C'est Saint-Malo.
Ouais, c'est marrant, ça fait vraiment ouais, plage quoi.
Mais là, tu vois, il y a le port, là, c'est sympa. Et tu peux continuer sur les banquettes.
Ouais, ça fait sympa.
Bien, ça.
Ouais, j'adore les banquettes.
Ouais,
ça sera très bien.
C'est bien là.
Ouais. De toute façon, je vais juste poser mon micro. Puis... Ouais, ouais, il est, je l'ai dessus. Mais c'est bon, on vous entend, ça va.
Cool.
Alors, t'as vu, j'ai un super carnet bleu.
Ah oui.
Et dans mon super carnet bleu, il y a plein de trucs. Moi, ouais, j'aimerais d'abord savoir si tu donnes ton âge ou pas.
Si je donne, oui, 50 ans.
50 ans.
Ouais.
Ok. T'as toujours fait de la musique?
Toujours depuis l'âge de 7 ans, ouais, par là.
Ouais. Et t'avais fait un parcours classique du style conservatoire.
Oui. Mal, mais oui.
Mal.
Petit conservatoire, école municipale. Non, ça s'appelait conservatoire, je crois. De Béziers, dans les Raux. Coin perdu, où j'ai fait quoi, 6 ans à peu près. 6 ans ou 7 ans, mais j'ai dû faire 2-3 classes, quoi. J'étais pas très assidu. J'étais
ah oui.
Pas très bosseur.
Pas très carré ou pas bosseur
ouais. Non, pas très bosseur, je m'en foutais, quoi. Mais j'ai quand même appris la théorie de la musique. J'ai appris à lire, à écrire.
Le truc le plus chiant, en fait.
Oui. D'abord, le truc le plus chiant. Et pendant un an ou deux, là-bas, tu faisais que de la théorie. Après, tu faisais du piano avec une prof qui te tapait sur les doigts si tu avais le malheur de faire un accord un peu bleu, c'est-à-dire un peu blues ou un peu jazz.
Ah oui, dès qu'un peu de folie, ouais. C'était pas possible.
Qu'est-ce que tu fais ? Mais... ouais.
Conservatoire Niette.
Et après, elle a voulu m'envoyer à conservatoire, je sais pas où, à Paris ou à Montpellier. J'ai dit, oh là là, non, au revoir.
Mais ouais. Ça devenait sérieux, il y avait quand même du niveau si on voulait t'envoyer à...
Je sais pas, il y avait peut-être des facilités, mais moi, je sais pas...
Et du coup, t'as continué tout seul
J'ai arrêté pendant, je sais pas, quelques mois, et après, je me suis mis tout seul à faire du jazz. Parce que j'avais un pote qui prenait des cours de jazz, ça, et je me dis, ah tiens, intéressant. Donc, je me suis mis au jazz. Je suis pas un jazzeux, hein. Mais j'ai quand même joué beaucoup de jazz.
Donc t'es pas un jazzeux, mais t'es un quoi alors ?
Un musicien, j'ai pas trop de limites, ouais. Ouais, ouais. Enfin, je fais pas de rap. J'aime pas le rap. Bien que j'ai écouté des trucs assez intéressants, finalement.
Ouais.
Mais grosso modo, je m'intéresse pas à ça. Non, bien que... Le slam, peut-être un peu, ouais, mais le rap, non, pas... Enfin, non, ouais. Non, ouais, voilà, c'est pas ma voix. Je respecte, mais c'est pas ma voix.
Donc du coup, voilà, t'as continué avec ton pote qui faisait du jazz, donc...
Non, pas avec lui, mais enfin, je m'y suis mis de mon côté.
D'accord, voilà. Ok.
J'ai dit, tiens, c'est intéressant. Je suis allé fouiller, j'ai toujours appris tout seul, donc comme ça, voilà. J'ai fait ça. Comme le reste, comme la photo, la vidéo, l'écriture aussi, parce que j'aime bien écrire. Enfin voilà, tout ça, j'ai appris tout seul.
D'accord, tout en autodidacte.
Ouais.
Ok. Et les études, t'as fait quoi, toi, en parallèle
Non, j'ai rien fait comme études. Je me suis arrêté à la première. J'ai fait 2 secondes, une première, ils m'ont dit, il faut refaire la première. J'ai dit, bon, mais au revoir. Et puis c'est tout. Après j'ai fait 1 an de capacité en droit.
Mon Dieu.
Non, deux fois 1 an de capacité en droit. Voilà. Et puis voilà.
Ouais. Bah, non mais la capa en droit c'est nul, on est d'accord quand même.
Bah, c'est pas génial, ouais. Moi j'aimais bien le droit, ouais.
Ah,
j'aimais bien, ouais, ouais.
Merci. Ah,
interruption, merci. Non, c'est. Merci bien.
Merci
c'est
beaucoup,
le. Ouais. C'est bon, c'est dans l'ordre.
Oui. D'accord. Normalement on est bon.
D'accord.
Ok, super. Bon, bah écoute.
Ouais, alors, à tes projets. Hein,
merci.
Que ça se passe bien. Ouais, ouais.
Bah, du coup, voilà, Kappa Endroit, 2 ans.
Deux fois un an.
Non, c'était pas fait pour toi, les études.
Non, clairement. Ni les études, ni le droit, c'est rigolo, moi j'aimais bien, mais enfin, bon, voilà, il n'y a pas de quoi faire un métier. Mm. Pas pour moi, en tout cas. Après, j'ai bossé quoi, un peu dans... Tu sais ça, tu veux savoir le... Après, j'ai bossé un peu dans l'immobilier, parce que mon père avait une agence immobilière, mais c'était pas mon truc. Et après, je me suis mis musicien professionnel. J'ai déjà commencé à faire de la musique de façon semi-professionnelle, depuis l'âge de 17 ans ou 18 ans.
18 ans.
Okay. Donc après, j'ai dit bon, stop, et puis j'ai été appelé par des gens pour faire de la musique.
En fait, tu faisais des festivals ou des concerts un peu dans les caves ou pour des
dans
gens.
Dans les caves.
Ouais, mais c'est l'image.
J'ai joué un trio beaucoup à l'époque. Trio, piano, basse, batterie, j'adore ça. D'ailleurs, c'est toujours un truc que j'adore. Et voilà. Je commençais à jouer là-dedans, puis on m'a appelé pour jouer dans des groupes un peu plus conséquents sur Montpellier, et puis je me suis barré à Montpellier. Je fais pendant 15 ans, je fais que ça.
D'accord.
Ouais, de la scène beaucoup, un peu de... et puis j'ai commencé la composition.
La compo, c'est pareil, t'as appris tout seul en fait.
Oui, oui.
Tu dis ça comme si c'était facile.
Oui, non, bah, c'est oui. Pas que c'est facile. C'est qu'il y a deux façons d'apprendre les choses, soit dans les livres, soit en le faisant. Moi, mon cursus, ma façon d'apprendre n'est pas. Merci.
Merci beaucoup.
N'est pas scolaire. Je ne suis pas du tout fait pour apprendre de façon scolaire. Mais après, c'est très bien aussi, mais c'est pas mon truc. Donc j'ai appris en écoutant, en faisant et en serrant les fesses, en allant jouer avec des gens qui jouent beaucoup mieux que moi. Et je me suis retrouvé dans des trucs sympas, voilà. Et après, j'ai commencé à composer, mais c'est venu comme ça. Après, ça s'explique pas vraiment. Enfin, je sais pas si ça s'explique. On me l'a demandé il y a 2 heures aussi. Quelqu'un qui me parlait de ça, un fan de Rayman, ça, qui aime bien concevoir des fois et qui me dit, mais putain, comment ça vient, ça? Et je sais pas comment ça vient.
Bah, on en reparlera, mais après, dans un autre registre. Mais est-ce que tu disais tout à l'heure que tu avais des facilités.
Je crois.
Tu penses? Est-ce que tu crois aux gens qui ont des dons?
Ah ça, je sais pas, j'ai pas d'avis. Je trouve qu'il y a des jeunes aujourd'hui qu'on voit sur YouTube qui, tu te dis quand même, il y a quelque chose. Il y a un truc quand même particulier. En même temps, on les voit parce qu'il y a YouTube aujourd'hui et Internet depuis maintenant 20 ans. Mais peut-être que, mais certainement qu'avant aussi, il y avait des gens qui avaient des. Alors je sais pas si c'est des dons ou des facilités. Il y a quelque chose, oui. Je crois qu'on a des facilités à faire quelque chose à un moment.
Tu penses à qui quand tu.
Par exemple, un jeune qui s'appelle Jacob Collier. Je vois des gens qui sont hallucinants, je connais des trucs hallucinants. Et des très jeunes. Il y en a un qui s'appelle Joe Alexander, qui a 13 ans, donc il peut avoir 14 ans aujourd'hui. Un jeune pianiste américain, c'est une réincarnation de Bill Evans, de Cunnington, énorme. Incroyable. Donc voilà, je me dis que certainement, à 13 ans, tu ne peux pas avoir de maturité musicale sans qu'il se soit passé quelque chose. Maintenant qu'on appelle ça un don, je ne sais rien. Je pense qu'il y a des trucs qui se sont croisés à un moment et qui font ça. Mais après, je ne sais pas si c'est un don. Je ne sais pas ce que c'est un don.
Donc si je vais reprendre le fil du coup. Donc tu deviens musicien pro. En gros, tu décides de gagner ta vie en faisant de la musique.
Oui. Et
c'est dans aux alentours de quelles années ça?
90. C'est en revenant de l'armée, parce que j'ai quand même accompli mon devoir citoyen, plus ou moins bien, mais quand même. Donc 86, 20 ans. Mais j'avais commencé avant. Mais j'avais pas le statut, j'avais commencé 2 ou 3 ans avant. 86, 87, donc vers 87, 88.
Et à cette époque-là, c'était facile d'en vivre?
Ouais, moi j'avais pas trop de problèmes de. Ouais. C'était le statut d'intermittent, un peu tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'a pas beaucoup changé. Avec ses contraintes qui ont fait que j'ai arrêté 15 ans plus tard. Mais oui, c'était assez facile. Ouais. Parce que j'arrivais à jouer pas mal de styles différents, donc je me posais pas trop de questions. Donc je faisais pas n'importe quoi quand même. J'ai toujours resté dans des trucs qui me plaisaient, mais il y avait le choix. Et puis on était payé. On était payé, puis bon, le statut d'intermittent fait que tu es payé les jours où tu ne travailles pas. À partir du moment où tu as réuni le nombre d'heures qu'il faut dans l'année, etc., je ne manquais pas de travail.
Et aujourd'hui, tu penses que les jeunes qui se lancent, ils manquent de travail?
C'est pas simple. C'est pas simple. Non, aujourd'hui, c'est pas simple. Mais ça, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. De toute façon, il faut se savoir. On n'a pas le choix. Ou alors, on meurt. Mais non, c'est pas simple. C'est certainement moins simple qu'avant, parce que. On a un problème qu'on a dans tous les métiers artistiques, la musique, mais c'est aussi la peinture, la photo, la vidéo, c'est-à-dire qu'on a aussi des amateurs qui font du très bon boulot, qui peuvent être très très bons, très créatifs, mais qui n'ont pas les charges parce qu'ils ne sont pas déclarés professionnels. Donc ils peuvent se permettre de pratiquer les tarifs très bas parce qu'ils ont un boulot la semaine, genre ils bossent le week-end, tu vois. Ou des musiciens voilà, qui font des soirées comme ça de temps en temps, des mariages, ou des photographes qui ont un boulot et qui. Enfin, j'en ai connu plein. Et on dit, il y a beaucoup de gens qui râlent là-dessus parce que ça casse le boulot. Moi je râle pas, mais du coup pour quelqu'un qui veut se lancer professionnellement, il a plus de mal à trouver sa place. En même temps, je considère qu'un amateur qui a envie de faire de la musique et en dehors de son boulot de merde toute la semaine, c'est très bien qu'il le fasse, quoi. Mais c'est vrai que ça empiète et que du coup, il y a des employeurs, que ce soit dans la musique ou dans n'importe quelle forme d'art, qui disent « Mais attends, tu me demandes 1500 balles pour venir jouer en trio, alors que moi, j'ai des petits jeunes, ils jouent super bien, ils mettent le feu, tout le monde danse, et ils me prennent 200 balles et deux bières. » Voilà.
Ouais.
Alors c'est une réalité, c'est tout. Après, on soit d'accord ou pas d'accord, je débat pas de ça. Par contre, voilà, ça existe. Et pour un jeune aujourd'hui qui veut devenir musicien professionnel, il a intérêt, je pense, comme dans n'importe quel autre métier, à trouver soit une niche, soit avoir des compétences très particulières qu'il a développées avant. Mais il n'a pas intérêt à se laisser porter par le truc en disant « Ouais, je sais jouer de la musique, ça va venir. » Peut-être pas, non.
Ouais, ça marche plus comme ça. C'est plus...
Non, mais comme dans plein de métiers, hein, je pense. À la radio, dans plein de métiers, c'est ça. Hein.
Oui, c'est ça.
Ça ne vient pas tout seul. Il faut se la donner, il faut avoir un truc particulier. Voilà, il faut avoir un truc particulier. Ouais.
Il faut se démarquer, en fait. On est trop nombreux sur le marché, quoi. C'est un peu ça, finalement. On est trop nombreux sur le
Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Depuis le numérique... est venu dans la photo, dans la vidéo, dans la musique et dans plein d'autres arts, dont l'infographie par exemple. Le numérique a donné des outils aux gens qui permettent d'exprimer des choses qu'on a en soi sans avoir appris les techniques de base, du dessin ou du piano. On peut faire de la musique aujourd'hui sans savoir jouer d'un instrument.
Ça c'est fou.
Voilà, c'est fou mais c'est vrai. Et puis des fois ça fait des choses super intéressantes. Hein. Moi, je connais des gens qui connaissent pas une note, qui ne jouent d'aucun instrument, mais qui font de la musique. Après, il y en a beaucoup qui font de la merde, mais il y a beaucoup qui font de la merde avec des instruments aussi. Enfin, de la merde, c'est relatif, hein. C'est subjectif.
Font du bruit.
Il y a beaucoup de gens que ça intéresse aussi, là, ce que j'appelle moi la merde. C'est pas tous les bruits, tous les goûts, c'est tous les bruits. Là.
Tous les bruits sont dans la nature. Ah, mais du coup, toi, t'as vu aussi l'évolution de toutes ces technologies pour faire du son, pour faire de la musique.
Ah oui, oui.
Parce que
oui.
T'as commencé donc en trio, donc avec des vrais instruments, et puis après sur des projets comme Rayman, dont on parlera peut-être plus tard.
Ouais.
J'imagine que t'as dû utiliser des outils informatiques.
Que ça.
Et ça fait pas un peu bizarre quand tu passes de l'instrument à cordes à
bois. Non, j'adore. Non, moi j'adore les deux. Je travaille encore sur les deux, hein, et de plus en plus. Hein. Je suis de plus en plus attiré par l'électronique. Mais tout en restant pianiste et. Mais pas intégriste, je ne suis pas intégriste de rien. Voilà. C'est-à-dire que j'aime bien mélanger tout ça. Et depuis, mais il y a 20 ans, j'ai déjà produit des titres avec des vrais musiciens et de l'électronique. J'avais enregistré des morceaux, je ne sais plus en quelle année c'était, mais 92-93 par là, que j'avais composé sur un ordinateur et où j'avais fait venir une vielle à roue, une guitare, un sax, tu vois. Le vielle à roue, c'est un instrument infernal.
C'est vachement à la mode aujourd'hui de mélanger...
Voilà, mais moi, ça fait 20 ans que je fais ça.
En fait, c'est absolument pas nouveau.
C'est pas nouveau du tout. Mais non, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plurimédia, plurimachin, quoi. Moi, je fais pas ce qui est écrit dans le manuel. Je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire. Si je trouve que... Si le bon goût, c'est relatif. Si je trouve que c'est le bon goût, ben je le fais.
Mmh.
Après, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Mais il faut tout mélanger.
Et du coup, tous ces goûts-là, ils se sont formés avec des références. Est-ce que tu avais des références quand tu étais jeune?
Oui, mais très varié. Ouais, très varié. En même temps, je ne suis pas fanatique. Fan. Enfin, j'ai des musiciens que j'ai adorés, ou que j'adore aujourd'hui, mais je ne suis pas.
Comme qui, par exemple?
Ben, un de mes plus grands inspirateurs, c'est Michel Petrucciani. Mais il n'y a pas eu que lui. Hein, mais... Après, je ne suis pas là à citer des milliards de références, que ce soit en termes de musique ou de cinéma. Ou... Je n'ai pas des milliards de références, je m'en fous. Il y a plein de trucs qui m'ont inspiré parce qu'on ne crée pas. C'est ce que je dis souvent, ça. C'est qu'on ne crée pas ex nihilo, on ne crée pas à partir de rien. On est forcément inspiré par tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu. Donc on ne crée pas. On fait des nouvelles choses avec ce qu'on a déjà au fond de. Ouais, une base de connaissances qu'on a dans la tête intrinsèquement parce qu'on a entendu, on a vu, on a écouté. Donc on ne crée pas. On fait des choses nouvelles à partir de ça. Mais on ne crée pas, au moins. La musique, c'est 12 notes différentes. C'est tout. C'est que 12 notes. Une octave d'un piano, 12 notes. Après, c'est les mêmes à l'aigu, mais c'est 12 notes.
Donc tous les gens qui pensent avoir créé, trouver quelque chose de complètement nouveau sont un peu...
Complètement nouveau, je crois pas. Maintenant, ça n'empêche pas d'être créatif. Hein. Bien sûr, on est créatif. Mais on ne crée pas à partir de zéro. Voilà.
Bah, du coup, l'évolution de cette technique, donc, c'est amené à manier de nouveaux outils, donc l'instrument, donc le piano classique, l'informatique, la MAO. Entre aujourd'hui la MAO des années 80 ou 90 à aujourd'hui, il y a eu de l'évolution.
Oui, quand même. Oui. À l'époque, quand j'ai commencé à me mettre à l'ordinateur, enfin à l'ordinateur, j'ai fait longtemps que j'ai des ordinateurs, j'avais eu un Amstrad, alors, c'est un vieux machin qui marchait avec des cassettes audio. Bon, mais là je faisais pas de la musique, j'ai commencé à faire de la musique et des ordinateurs avec un Amstrad. L'Amstrad était, dans les années 80, le seul ordinateur qui était fait pour les musiciens. C'est-à-dire qu'il possédait d'usine, d'origine, dans les Amstrad, il y avait des prises MIDI. Donc le MIDI est le protocole qui sert aux ordinateurs et aux synthétiseurs à communiquer ensemble, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les premiers synthétiseurs numériques, c'était MIDI plutôt. C'était dans les 84-85, avec des prises MIDI qui permettaient de brancher un ordi. Du coup, sur un ordi, on avait des programmes qui permettaient de composer des choses. Donc l'ordi communiquait avec le synthé, on rentrait sur un clavier des notes qui s'enregistrait dans l'ordinateur, voilà. Et là, ça a été une révolution, une belle révolution.
Ça devait être un peu magique.
C'était magique, ouais. Mais à l'époque, on n'avait que du MIDI. Aujourd'hui, on fait facilement de l'audio. C'est-à-dire ce que tu es en train de faire là. Mais sur l'ordinateur, on enregistre des pistes audio dans l'ordinateur. Et on mélange ça avec du MIDI. Et puis avec d'autres protocoles. Il y a de l'électro qui rentre aussi là-dedans. Et on peut tout mélanger aujourd'hui, c'est génial.
Il y a une complexification, en fait, du...
En tout cas, un gros développement. Oui, c'est devenu plus complexe. Plus complexe, bien sûr. Mais oui, bien sûr, parce que ça ouvre d'autant plus de portes.
Rien qu'à partir de là, niveau créativité, on peut se faire plaisir. Quoi.
Oui, mais... Oui et non. Non, enfin, oui. Comment dire ? Aujourd'hui, par exemple, si tu prends l'univers de la photo, depuis à peu près 98-99, on a des appareils photo numériques. Bon, au début, c'était merdique, mais bon, il y en avait. Et moi, je suis vraiment un enfant du numérique, c'est-à-dire que j'ai adoré le numérique, je me suis foutu dedans à fond. Mais c'est pas parce qu'on a un appareil photo numérique, ou aujourd'hui un iPhone qui prend des super photos, ou n'importe quel appareil, enfin un téléphone, qu'on est photographe. Aujourd'hui, tu achètes un ordinateur à 300 balles, tu achètes un synthé à 100 balles, et tu fais de la musique. C'est pas pour ça que tu es musicien. Donc oui, ça permet beaucoup de choses, mais ça ne remplace pas pour la photo l'œil, et ce qui est derrière l'œil, c'est-à-dire le cerveau. Et pour la musique, ça ne remplace pas, c'est pareil, les doigts et le cerveau qui est derrière. Donc on peut tout faire, mais il n'empêche que si tu n'es pas musicien, tu vas faire, comment dire, enfin, je ne veux pas juger, mais tu
des
vas faire...
Des choses pas terribles.
Tu vas faire pas forcément de la musique. Enfin si, tu vas faire de la musique, parce que c'est des notes, donc c'est de la musique, mais voilà. Mais on peut tout faire aujourd'hui. Tu prends des appareils qui te prémâchent le boulot. Quand tu es sur un piano, les notes, il faut les jouer. Voilà, mais après, je veux pas faire le vieux, tu vois, le vieux con qui dit « Ah, il y a que les vrais pianistes qui savent jouer de la musique. » Mais quand même. Quand même.
Non, mais c'est bien quand même de rappeler qu'en fait, aujourd'hui, les outils sont vachement démocratisés.
Quand je suis en déplacement, j'ai une petite sacoche qui est comme ça, pas grande, avec un petit clavier 3 octaves, une petite enceinte sans fil, mon iPad avec plein de logiciels de musique, et avec ça, je compose où je veux, dans le train, n'importe où.
C'est dingue.
C'est super.
C'est quand même fou.
Voilà, mais il faut quand même savoir jouer de la musique.
Quand tu dois créer quelque chose, est-ce que tu as déjà une sorte de spectre musical dans la tête ? Tu as déjà une idée de là où tu veux aller ?
Tu peux partir d'une demande ou d'une envie personnelle, et après tu peux partir d'une mélodie ou d'un son ou d'une tournerie de batterie ou de boîte à rythme ou un son que tu entends dans la nature. Tu peux, n'importe quoi, tu peux faire une composition. Non, j'ai pas de recette. Non, surtout pas. J'en veux pas. J'en veux pas parce que je m'éloigne. Enfin, je me suis jamais. Non, les recettes pour moi c'est contre-productif, contre-créatif, si ça se dit ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de recette. Tout est possible. Il faut tout essayer. Et moi, voilà, en fait, voilà, je vais te dire, c'est simple. Ma phrase préférée, c'est toute idée a priori étrange mérite d'être essayée. Parce que ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Elle n'est pas de moi, je ne revendique pas. Mais par contre, c'est une phrase qui me représente.
Tu te souviens de qui elle est, cette phrase ou...
Ouais. D'un mec qui faisait des chroniques dans un canard qui s'appelait Keyboard Magazine, pour qui je travaillais une époque, je faisais des trucs pour eux. J'avais lu cette phrase, j'avais dit, mais putain, c'est lumineux ça, voilà, ça me plaît. Donc, tiens, ça s'est évaporé. Hein. Mais en pause, on va encore un moment.
De toute façon, je couperai après. Moi, tu sais, je laisse tourner.
T'auras plus de piles après.
Ouais, si. Ça va marcher.
Ouais.
Ouais.
Allez, les piles, tenez bon.
J'ai confiance. J'ai confiance. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est vrai que les processus de création, même. Tu vois, je demandais hier à Aymeric. La couleur en musique, moi, c'est un truc qui m'est totalement
la
étranger.
Ouais.
J'ai du mal à comprendre.
C'est des mots qu'on utilise aussi en photo, en vidéo. La couleur, la tonalité, ton chaud, ton froid, tout ça, c'est des termes qui sont semblables. C'est pour ça, d'ailleurs, pendant des années, je me suis éclaté avec des appareils photo, des caméras, parce que pour moi, c'était juste l'outil qui changeait, mais je créais pareil.
Et est-ce que je me trompe si je dis que ce que tu aimes faire dans la vie, c'est raconter des histoires?
Raconter des histoires? Oui, sûrement. Je pense que c'est ça, l'idée. Ouais.
Dérouler un fil à chaque fois.
En tout cas, raconter ce qu'il y a un truc que tu as envie de sortir ou de partager. C'est le partage. Ça, oui. Oui. Donc, oui, raconter. Ouais.
Comment on sait que les gens sont réceptifs, par exemple, à un son avec Rayman, par exemple, tu as eu une récompense, mais bon, après, c'est l'institution, ça veut rien dire.
Ouais.
Il y a la reconnaissance des fans. Qui est là. La BO de Rayman, tu ne l'as pas composée seule, je le sais. Hein. Vous étiez trois, je crois. Deux ou trois.
Ouais.
Toutes les musiques, quoi. Mmh. Ça racontait et ça résonne maintenant dans ma tête avec des souvenirs spécifiques.
C'est parce que c'est rattaché à ce que tu as vécu à ce moment-là aussi. Tu sais, on a toujours, pas la nostalgie, mais on se rappelle. Des fois, tu entends une vieille musique ou tu sens un parfum que tu as senti il y a 20 ans et là où il y a 10 ans. Et poum, ça te replonge dans un truc. Tu vois, donc c'est la magie de la chose. Et la musique, ça fait facilement cet effet-là. C'est marrant, il y a des jeunes aujourd'hui de 13 ans qui me disent « Oh, Rayman 1, ça a bercé mon enfance. » Tu vois, les mecs, ils me disent ça. Ils
n'étaient
même pas nés, quoi. Ils me disent « Ça a bercé mon enfance. » Puis t'as des mecs de 45 ans qui me disent ça aussi, quoi. C'est génial.
C'est fou, ça, ouais.
Mais quand tu fais ça, tu n'imagines pas la portée que ça, quoi. Tu fais ça parce qu'on te l'a commandé, puis parce que tu t'éclates à faire ça, et puis ça sort tout seul.
Tu t'es amusé à faire ça
Ah bah oui. Tu peux pas le faire si tu t'amuses pas.
Et c'est niveau pas... liberté, c'était...
Ah, c'était assez open, hein. Ah ouais, c'était cool. Ouais.
À l'époque, chez Ubi, on pouvait faire à peu près presque ce qu'on voulait.
Mais sur ce projet-là, oui, hein, on se posait pas de questions. Tu balançais tout ce que tu avais, d'énergie et de créativité, et le partage toujours, et puis boum, voilà, ça marchait, quoi. J'ai l'impression aujourd'hui, mais ça fait longtemps, mais du coup, j'ai l'impression que c'était très simple.
Avec le recul.
Alors, peut-être ça ne l'a pas été autant que ce dont je me souviens, mais j'ai l'impression que c'était vachement simple. Quoi.
Est-ce que tu bossais beaucoup à l'époque sur ce projet-là? Je veux dire, au niveau taux horaire
Je sais plus. J'ai bossé pendant un an et demi là-dessus, mais après je faisais beaucoup de scènes aussi, donc je faisais pas que ça. Mais non, j'ai pas l'impression que ça a été très violent. Quoi. Faut pas le dire ça peut-être.
Non, mais si, pourquoi pas, à l'époque non, c'était
ça sortait, c'était bien, ça roulait, tu vois.
Et du coup, bah, on va arriver à Rayman, hein, au fil de la discussion.
Grand silence.
Ouais, finalement, Rayman, c'était un peu... Enfin, c'est du hasard, quoi. C'est la rencontre.
Ah oui, c'est ça, mais ça, c'est toujours la rencontre.
En fait, t'es allé jouer avec un de tes potes chez Michel Ancel, grosso modo.
C'est ça.
Et il t'a entendu et t'a dit, bon, bah, tu viens.
Ouais, on a sympathisé, et puis, tu fais des jeux vidéo, tu fais de la musique. On pourrait essayer des trucs. Voilà.
Nous avons fait un rap. Pardon.
Nous avons fait un rap avec Michel Ancel et l'équipe. Un rap avec des paroles de Michel. Hein. Moi, j'ai fait la musique et ça a été le début du truc. Mais ça, personne ne l'a entendu, ce truc-là.
Et c'était combien de grammes d'alcool? Parce que
on buvait pas trop à l'époque. Hein. On se tenait, enfin, on buvait un peu, quoi. Mais non, c'était surtout de la bonne déconnade. Michel, tu sais, il a toujours été très déconneur, très fun et très prêt à faire mille trucs, quoi.
Ouais, c'est un passionné lui aussi. Ah, c'est
voilà, il est prêt à tout. Donc, on a essayé ça. Après, on a été en studio, on l'a enregistré avec toute son équipe, tu vois, mais il y avait personne qui savait chanter là-dedans, mais ça fait rien. C'était chouette.
C'était drôle.
Ouais, c'était super. On a bien rigolé. Et voilà, et ce rap n'est pas sorti, il n'a pas été édité.
Ça, c'est dommage.
C'est ouais. Bon,
il y a pas de trace.
Si, mais bon. C'est. Voilà. Si.
Ça se négocie ou pas?
Ça a été enregistré. Oh, je sais pas. Un jour, peut-être. Ça serait rigolo. Ouais.
Ah, je veux la primeur de ce truc-là.
Faut voir avec Michel. Ouais, mais on me l'a déjà demandé, la primeur de ce truc-là.
Ah non. Ouais, mais moi, c'est dû à mon âge, je ne pouvais pas être là avant. Non, c'est pas ça.
Ah ouais, non, mais celui-là, bon. C'était, voilà. Mais en tout cas, c'était le coup de le lancement de la chose. On s'est dit, bon, mais ok, on s'éclate à bosser ensemble. Allez, maintenant, sérieux, on fait des essais pour Eman.
Et du coup, comment ça s'est passé après? Tu vas composer sur telle image, telle vidéo?
Oui. Ben alors il m'a dit on va faire des essais, donc on a fait La Forêt, le tout premier morceau, si je me souviens bien. Alors après avec Michel c'était des grandes soirées ou des nuits où on discutait parce que le jeu n'était pas encore, j'étais un peu en avance sur le jeu moi. C'était, j'avais juste des captures d'écran où il me prenait des photos de l'ordi, tu vois, ce qu'on appelle des captures d'écran aujourd'hui, mais là c'était des photos. Ou des bouts de machin comme ça, ou alors je prenais beaucoup de notes, hein, on passait des heures avec Michel et il me disait voilà, il va y avoir un niveau avec ça, des super des monstres qui vont arriver là, des trucs, il faut choper ça, machin, des couleurs comme ça, tout ça. Donc, je disais ok, voilà, ok, arrête. Et puis après, 2-3 jours après, j'ai envoyé, parce qu'il n'y avait pas d'internet. Hein. Donc il revenait, ou j'allais le voir, et j'ai dit tiens, mais voilà, qu'est-ce que ça me passe? Ah ouais, cool! Super. Bon, ok.
Et donc ça a duré un an et demi?
Un an et demi, ouais.
T'avais pas de lien avec les autres compositeurs du
Non, coup. Pas du tout, je les connais pas.
Et même aujourd'hui?
Non, j'ai pas eu l'honneur de les rencontrer.
Michel les connaît quand même
Je suppose.
J'espère.
Je suppose.
Elle vous a jamais mis en contact, c'est marrant quand même. Hein.
C'est-à-dire, moi j'ai bossé pendant un an et demi, et vers la fin, ou les derniers mois, je sais pas quand exactement, ils ont fait appel à d'autres compositeurs parce qu'ils ont manqué de matière. Mais bon, voilà, ça s'est fait, tu sais, après, moi je suis pas forcément au courant, moi je continue mon truc. Moi j'étais à Montpellier, eux ils étaient à je sais pas où d'ailleurs. Donc non, on s'est pas croisé.
D'accord. Oui. Bosser sur un jeu vidéo, ça t'a pas fait bizarre, venant de la scène, venant de...
Ouais, moi ça m'a éclaté, ouais. C'est vachement intéressant. Donc moi j'ai toujours été un peu passionné, attiré par la techno, par tout ce que je connais pas. Ça m'attire a priori, voilà, ça m'intéresse. Donc là c'était un super nouveau truc, parce que bon, quand tu joues pendant 15 ans sur scène, j'ai un peu le défaut de... Je sais pas si c'est un défaut. Je fais très vite le tour en général de ce que je fais. J'aime bien passer à autre chose. J'aime pas stagner ou faire la même chose tout le temps. C'est pour ça que j'ai plusieurs métiers et que je veux... C'est une bonne occasion de bifurquer tout en continuant la scène, parce que c'est chouette la scène. C'est unique. Mais de dire, oh, tiens, il y a un nouveau truc là, waouh, voilà.
Ouais, c'était faire autre chose, quoi.
Et voilà, mais aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un truc qui m'attire, je vois un truc qui brille, j'aime bien aller voir. Voilà, il faut pas que ça dure trop longtemps après, voilà, il faut que ça évolue.
Du coup, t'as pas travaillé sur d'autres jeux par la suite?
Non. Non, je sais pas. Après, je me suis barré dans l'infographie, dans le web, parce que ça me passionnait aussi. Et je suis parti là-dedans en 2000.
Ça fait un choc, 2000?
2000. Le futur. L'ex-futur d'hier.
C'est ça, l'ex-futur, où les voitures volaient et où on mangeait de la bouffe en dragée.
Mais en 2000, les voitures volaient, hein.
Enfin, on les volait, oui, mais...
Ah oui, on les volait, oui, c'est ça. Non, pardon, ouais.
C'est troublant, enfin, quand j'ai regardé ce que tu avais fait, un mec qui vient du son, clairement, de la musique, et qui part dans l'infographie, dans l'image, dans...
Ah ouais, la photo, la vidéo.
Qu'est-ce qu'il y a?
La gestion aussi.
La gestion?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais.
C'est rigolo ça, pourquoi la gestion?
Parce que depuis 10 ans, je suis formateur sur des logiciels de gestion aussi.
Ah, c'est drôle.
Voilà.
Ça t'éclate?
Non.
Parce que ça fait pas sexy, hein.
Sexy. Hein. Mais je suis en train d'arrêter ça. Bon, voilà, je trouve que j'ai cette facilité-là aussi, je sais pas, c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu trouves dans l'image qu'il n'y a pas... C'est idiot, hein. On voit des trucs.
Qu'il n'y a pas.
Qu'il n'y a pas dans le son, dans la musique.
Dans le son. Mais non, je te dis, il y a beaucoup de trucs similaires. C'est l'outil qui change. Un appareil photo, une caméra, ou un piano, tu peux retrouver des sensations similaires. Tu vois? Ah, sauf la scène, le live. Mais à part ça, tu crées, tu exprimes des choses comme tu disais tout à l'heure, tu racontes des histoires, tu exprimes des choses, tu vas partager des choses, tu as envie de partager des choses, de montrer, de partager. Mais tu peux le faire avec un appareil photo ou un piano. Hein.
Qu'est-ce que tu as envie de montrer justement ou de partager? Souvent c'est des émotions, c'est des idées, c'est des...
Je sais pas, ça je me pose pas la question. Il n'y a rien de précis. C'est juste, un musicien, tu sais, s'il joue pas devant des gens, il meurt. Un peintre, s'il n'expose pas ou s'il ne montre pas, il meurt. Enfin, il n'est pas vivant, disons. Il va faire son truc dans son coin, mais ça ne lui suffit pas, je pense, dans 95% des cas. Tu fais ça pour un moment le montrer, le faire entendre ou le partager avec des gens. Sinon, je trouve que c'est un côté, le mauvais côté de l'égoïsme. parce que l'égoïsme c'est bien, moi je trouve, il y a des très bons côtés à l'égoïsme, mais créer des choses dans son coin et ne jamais vouloir les montrer, c'est soit que tu as un problème avec ton passé et que tu as un blocage, ou soit que, je sais pas, après je connais pas, je suis pas psychologue, mais soit que tu as un problème de, soit d'ego surdimensionné mais qui du coup te refoule, enfin j'en sais rien, tu vois, un truc bizarre. Mais normalement quand tu crées comme ça, c'est pour le montrer à quelqu'un, ou je suis à côté.
Ici. Merci.
Merci bien.
Merci à vous.
Sinon je comprends pas trop le processus de création, si c'est pas pour toi ce que tu fais de la création aussi. Même si tu dis que t'as pas une âme d'artiste, moi je crois que oui. Tu l'exprimes différemment, mais ce que tu fais là, c'est pas pour le garder dans ton ordi. A priori c'est quand même un jour pour le faire écouter
c'est
à quelqu'un.
Pour le travailler et le
partager, voilà. ou en faire quelque chose d'autre. On fait comme les recettes, tu sais, les recettes pompettes.
C'est ça, moi je fais les interviews pompettes.
Allez voilà, les interviews pompettes. Yo. Bah oui, non, mais faut arrêter non,
mais faut être détendu, quoi.
Sortir du cadre.
C'est ça.
Tu veux, t'as fait ils font des petites tapas, des trucs sympas. On va lui demander ce qu'il a de qui
on va
passer.
On va lui demander une carte ou un truc.
Oui.
Ouais, je sais plus où on en était du coup.
Le processus de création.
Ah, le processus de création. Un truc
difficile à. Ouais, c'est un sujet. Tu t'aventures dans des trucs.
Ouais, j'ai vraiment envie de parler de trucs un peu costauds.
Vas-y.
Tu distribues, tu partages des choses que tu prépenses pas, on va dire. Enfin, tu produis quelque chose de.
Parce que moi, je fais pas des produits. Mais après, il y a des gens qui font des produits aussi avec tout ça.
Oui, mais c'est de la commande. On va produire quelque chose que quelqu'un d'autre a exprimé finalement. Un désir que quelqu'un d'autre a exprimé.
Non, je veux dire, il y a une envie à la base. Pour certains, c'est. Entre guillemets, vénal. C'est-à-dire, on va produire, mais dans un but très précis de se placer quelque part. Moi, je n'ai jamais pratiqué comme ça. Enfin, voilà, c'est une démarche. Quand tu as envie de composer, quand tu as envie de faire ça, ce que tu fais, tu le fais parce que tu as l'envie. Mais voilà. Ouais. Moi, quand je compose, que ce soit une commande ou pas, je vais pas composer pour un truc qui m'inspire pas. Je pourrais pas. Donc, je vais dire, ben non, je peux pas. Ou alors, je vais essayer, puis je vais dire, ben écoute, non, c'est de la merde, donc non, je peux pas. Bon, ouais. En général,
il y a des projets que tu as refusés ?
Ah ouais. Oui. Bah, pas souvent parce que. Mais quand même, ouais. Moi si je me sens pas bien, je le fais pas. Si je peux pas. Si je sens pas que derrière mon nom va pas être. Enfin sur les crédits, j'ai pas envie qu'il y soit, mais je préfère pas le faire. Voilà.
C'est vrai que là après il y a des gens ils produisent pour des commandes, après c'est. Bah, j'imagine qu'aujourd'hui c'est peut-être plus difficile aussi pour les jeunes, il faut bouffer quoi.
Pour les jeunes, ça n'a pas l'air simple. J'en connais pas mal avec qui je travaille en ce moment par rapport à, autour de Push Start et tout ça. Donc je me suis mis en relation. Il y en a avec qui je travaille. Non, c'est pas simple, mais je crois que ceux qui ont le feu, ils ont leur chance en tout cas. Ouais. Ceux qui ont le feu arriveront à avoir du choix. Il faut du temps, mais ça, toujours, il a fallu du temps hein, pour se placer, pour se faire connaître. Et pour montrer qu'on a, non seulement qu'on avait de la créativité, ça c'est une chose, mais aussi qu'on était carré, et qu'on suivait le boulot, et que, parce qu'il n'y a pas que le fait de créer. Moi je connais beaucoup de gens qui sont hyper créatifs, mais qui crèvent la dalle, mais vraiment parce qu'ils n'ont aucun suivi après dans le truc.
Aucune structure.
Ils n'ont rien à foutre, c'est des méga compositeurs, ou des méga photographes, ou tout ce que tu veux, ou des peintres, mais ils crèvent la dalle. Alors ça c'est malheureux, mais en même temps, malheureusement, en tout cas dans la société où on vit, en France.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On va laisser passer le canard. Malheureusement, aujourd'hui, tu es obligé de te faire ta route, quoi. Alors bon, c'est discutable, mais en tout cas, si tu restes dans ton coin, même malgré toute ta créativité, tu vas galérer.
Ouais. Voilà. T'aurais un conseil où justement tu vois tous ces jeunes qui bossent, qui triment, qui galèrent.
J'ai pas trop de conseils à donner, parce que c'est au cas par cas. Et puis je ne me permets pas de donner des conseils, mais quelquefois j'aime bien suggérer des choses. C'est pas un conseil, mais de dire. Prends ce que tu fais et fonce, mais pas n'importe comment évidemment, pas aveuglément. Et ne crois pas que ça va tomber tout seul, mais fais ce que tu as là, quoi, ça oui, dans le cœur. Sois authentique. Quoi.
La créativité c'est bien, mais il faut beaucoup beaucoup de taf quoi.
Il faut beaucoup bosser, mais attention, alors là aussi j'en suis revenu, j'ai bossé pendant des années 90 heures par semaine. C'est pas forcément la solution, c'est pas ça qui amène la reconnaissance ou la valorisation de ce que tu fais. Non, c'est pas ça. Il faut bosser beaucoup, et je continue à bosser beaucoup. Par contre, je me suis rendu compte avec mon âge avancé...
50 ans, ça va.
Ouais. Oui, merci. C'est pas parce que tu bosses beaucoup que tu vas y arriver. Non.
Faut bosser efficace.
Faut bosser dans le bon sens et faire des bons choix. Alors ça, c'est facile à dire. Hein.
Avec le recul, ouais.
C'est facile à dire, mais c'est plutôt les bons choix. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui bossent pas beaucoup, qui se font plein de blé. Hein.
Oui, mais est-ce qu'ils sont heureux, ces gens-là?
Ah non, pas forcément. On n'a pas dit ça.
Mais c'est ça aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'on vise, le pognon ou...
Ah oui, voilà. Ça, c'est un... Alors ça, c'est un autre sujet. Comment on fait pour être heureux? Non, c'est pas le pognon. Faut pas courir après ça, je pense pas. Il y a mieux à faire.
Ça fait perdre du temps.
Oui.
Ah, j'ai pris la gorgée de trop, là. Ah,
attends.
Excusez-nous.
Autre question.
C'est très bon, mais waouh.
Vous avez des tapas, là?
Oui, bien sûr.
Voilà, donc ils ont plein de trucs sympas.
C'est cool, mais tu veux quoi?
Interlude.
Interlude de nourriture.
C'est super bon.
Bah, du fromage et de la charcuterie, ça peut pas être dégueulasse.
Ah oui, puis en plus, c'est du manchego, je crois, le fromage. Là.
Manchego?
Ouais, c'est un fromage basque.
Ah,
très bon.
D'accord. T'as beaucoup voyagé ou...
Non, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai été en Europe, à Cuba.
Ah ouais.
Puis voilà.
À l'époque où c'était pas ouvert du tout en plus.
Ouais.
Parce que...
Il y a 11 ans, ouais. Ouais.
Ça devait faire un petit choc, non? Le régime communiste.
C'est particulier,
cubain,
hein.
Ouais.
Je me suis retrouvé dans l'hôtel où habitait Hemingway pendant des années et j'ai joué du piano là-bas avec des Cubaines qui étaient là, une violoniste et une pianiste que j'ai remplacée du coup. Et ça, c'était un moment fort. C'était fort. Il y a des vibrations. Enfin, j'ai fait le bœuf avec des groupes et tout là-bas, mais non, c'est pas plus. Je suis pas forcément passionné par Cuba, mais c'était quand même vachement intéressant. Au niveau musique, je suis passionné par la musique brésilienne. Il y a des musiciens brésiliens que j'adore, comme Djavan, comme Caetano Veloso. C'est des monstres de création. Caetano Veloso, il a fait un morceau qui s'appelle Nan Ench, je crois que ça s'appelle. Les titres, je ne me souviens pas forcément, mais j'ai des favoris, des playlists sur mon YouTube. Il y a des trucs, mais c'est monstrueux. J'adore. Des trucs qui me transportent. Gilberto Gil aussi. Là. Ça m'a passionné, mais encore plus que le jazz, quoi, la musique brésilienne.
Ah ouais?
Ah oui.
Et t'as découvert ça au moment de ton voyage à Cuba ou
Non, Cuba, c'est pas de la musique brésilienne.
Oui, mais je veux dire, est-ce que le fait de partir vers ce
déjà,
côté-là de l'hémisphère...
Non, j'en jouais déjà avant. Hein. La musique cubaine, j'adore pas en jouer. J'aime en écouter, mais j'adore pas la jouer. La salsa, voilà. Ce qu'on connaît le plus, c'est la salsa. La musique cubaine. J'adore pas jouer ça. Je sais pas bien le jouer, je me suis jamais intéressé. Mais la musique brésilienne, j'ai pas mal baigné dedans. Et chilienne aussi, parce que j'ai joué avec un groupe chilien pendant 2-3 ans. La musique gitane aussi, j'ai pas mal joué avec des gitans. Et tout ça, ouais, ça m'a bien éclaté.
Ça construit en fait. Finalement, c'est pas des paliers un peu.
C'est avec ça que tu construis. C'est un trempant. Non. Moi, je connais des gens qui jouent que du jazz des années 30. Ils s'éclatent, mais moi, ça me fait chier. Mais je respecte, hein, attention.
Mais, c'est
mais moi, ça me fait chier.
Ils s'ennuient pas, mais je suis presque admirative.
Je pense qu'ils s'ennuient pas, ou alors c'est qu'ils se. Ou alors c'est qu'ils considèrent qu'ils s'ennuient pas, j'en sais rien. Après, je connais pas le processus. Mais moi, je peux pas. Ouais. Même la musique brésilienne, ça m'a éclaté pendant des années, mais maintenant, je suis passé à autre chose. Malgré tout, quand j'entends Caetano Veloso ou Djavan, ça me fout la banane, quoi, tu vois, c'est énorme, quoi. Après, voilà, je pense pas qu'à ça. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à l'électro, enfin beaucoup, je commence à m'intéresser à l'électro, le mélange de l'électro, chose que j'ai fait il y a 20 ans déjà, mais j'ai envie de créer avec ça.
L'électro, t'as des gens, des artistes que
ouais.
T'écoutes
Non, mais on m'a fait découvrir ça il y a pas longtemps parce que j'ai des gens qui s'intéressent à mon projet, qui m'ont fait découvrir tout ça, parce que dans le projet qu'on va lancer bientôt, là, enfin, on a prévu de faire participer des gens de la scène électro.
D'accord,
ouais,
ok.
Sur mes arrangements.
Donc le projet, bah, on va en parler tant qu'à faire, hein, tant qu'il me reste un petit truc de pile. Donc, le projet, c'est le Rayman Live, c'est ça dont tu me parles?
D'abord, c'est l'album.
D'abord l'album.
Alors, à la base, c'était le Rayman Live.
Alors, l'album? Moi, je ne sais pas ce que c'est.
L'album, ah oui. Alors, l'idée, c'est que c'est des fans qui m'ont demandé à plusieurs reprises de rejouer du Rayman. Au début, il y a 2-3 ans, c'était de dire « Est-ce que tu ne pourrais pas me rejouer Rayman au piano, là, sur YouTube ?» Tu vois. Alors, j'avais dit « Ah ouais, ouais. » Et ben, pourquoi pas. Et puis après, je me suis dit « Mais comme il y avait pas mal de demandes et que je trouvais ça passionnant, je me suis dit « Mais après tout, on va faire un truc un peu plus costaud, un peu plus complet, quoi, développé. » Et j'ai proposé de réarranger mes musiques de Rayman, mais de les jouer en live, avec éventuellement même un orchestre symphonique.
Parce que du coup, je reprends mon petit carnet bleu, car je suis...
C'est vrai qu'on le voyait plus,
je
le carnet.
Je suis fortement... Je suis
tributaire.
Non, mais je ne crois plus ma mémoire quand j'ai bu deux shots de rhum.
Deux ou trois?
Deux. Tu vas reprendre 12 titres, donc tes 12 morceaux de Rayman 1.
Oui, pour qu'ils soient joués en live avec des plages d'improvisation, parce que j'ai des musiciens et moi-même qui adorons faire de l'impro aussi. Pas trop, mais quand même. Et on va jouer ça un peu plus péchu, live.
Punchy, quoi.
Ouais. Ça fait un an qu'on en parle vraiment et qu'on est en discussion avec tous les partenaires, tous les gens qui sont autour de ce projet. Et logiquement, on va lancer un Kickstarter bientôt pour ensuite bien produire l'album avec, si on atteint les niveaux qu'il faut, avec un orchestre symphonique qui va se greffer à nous. Sur certains, pas tous, mais 5 ou 7... musique. Il y aura un beau vinyle, il y aura pas mal de pledges, enfin de contreparties sur le Kickstarter, sympa et unique, avec des inédits peut-être, avec des accès en live à des séances de répétition, des accès, des visites avec nous au studio pendant qu'on enregistrera, peut-être un vinyle 7 pouces avec des inédits. Le livre sur l'histoire de Rayman qu'a écrit Michael Gornet, qui est un super mec, qui écrit des belles choses chez Pix & Love, avec une édition collector, dédicacée, voilà, et y compris par Michael d'ailleurs, j'espère. Après, peut-être, moi je vais faire un concert chez les gens. Hein,
ah, toi t'es prêt à aller faire un concert chez les gens.
Ouais.
Merci beaucoup.
Super. Oh, merci.
Merci. Ça donne trop envie.
Ça sent bon, hein, vas-y.
Ah ouais. Ah ouais, je vais taper dedans. Hein. Attends. Yeah, mais c'est merveilleux. Des piles neuves.
Wow.
C'est dingue. Ouais, ce projet, donc en fait, tu auras l'album. Mais donc parce que les fans ont demandé à ce que tu rejoues des morceaux, puis l'expérience était pas mal. Mais le but, c'est de faire du live quand même.
Bah oui, alors du live avec de la réalité augmentée aussi.
De la réalité augmentée. Il va y avoir spectacle, quoi. Mise en scène.
Ouais. Si on peut faire ce qu'on veut, il y aura du mapping 3D.
Alors du mapping 3D, je vois pas... Enfin...
Des projections vidéo très ciblées sur des parties de la scène. On peut imaginer un Rayman qui va arriver assis sur le piano. Et aussi faire jouer des gens avec nous, des gamers, pendant qu'on jouera à la musique. Mais les faire jouer avec une console, ça ne fait pas, tu vois, avec une manette. Mm. Visuellement sur une scène. Donc avec des manettes géantes.
Genre tu les fais sauter sur des boutons géants
Voilà. De courir sur un tapis roulant, je vois pas.
Tu prends des gens dans le public ou
Oui, alors après on verra, oui, on fera peut-être un concours avant, tu vois, et oui, faire venir des gens qui jouent avec nous, tu vois. Ou utiliser un punching ball pour lancer, tu sais, le point.
Ah, le fameux point. Non, mais ça, c'est...
Voilà. Et quelqu'un qui fera les bruitages.
Voilà, le projet, c'est de faire du live. Et est-ce que par live, t'entends tourner?
Ça serait logique. Parce que ce que j'ai constaté... Tu l'as vu le trailer qu'on a fait?
Ouais.
Ce que j'ai constaté, c'est que cette musique réarrangée, elle plaisait à des gens, y compris des gens qui ne connaissaient pas du tout Rayman ni les jeux vidéo. Donc il y a aussi tout ce public, des gens qui aimaient la musique. Donc ça, c'est intéressant, c'est chouette.
Plus vieux ou plus jeune quand même?
Alors dans ce cas-là, c'est plus âgé, quoi. C'est pas des gamers de la première heure.
Ni des enfants qui ne connaissent pas Rayman.
Non, parce que les enfants, enfin les gamins ou les ados aujourd'hui, la musique qu'ils écoutent, c'est quand ils écoutent que de la musique, c'est pas forcément ça. Mm. Par contre, des gens qui ont entre 40 et 50 ans, j'en ai vu pas mal qui s'éclataient à écouter la musique, mais ils savaient même pas ce que c'était Rayman, tu vois. Sachant qu'en plus la musique est très variée sur Rayman, quoi. C'est pas du symphonique, c'est pas du jazz, c'est un peu de tout.
Ça plaît pas mal. Donc, du coup, peut-être que la convention, c'est pas l'endroit le plus...
Pas forcément. Mais c'est un endroit intéressant quand même pour présenter la chose. Mm. Oui, parce qu'il y a toujours... quand on a joué avec Pixelophonia, là, par exemple à Nancy, bon, c'est vrai que les gens ont adoré, quoi.
Ça t'a fait quoi de retrouver la scène avec ce projet-là? Ça doit pas...
C'est très fort. C'est très fort. Surtout quand t'as 800 personnes qui te montrent que c'est très fort pour eux aussi.
Ils exultent un peu. Enfin, quand je vois ça, j'ai l'impression que tu boucles un peu un truc.
Il faut qu'on exploite tout ce qui est possible, quoi. Au niveau créativité. Oui. Et même au niveau moyen technique, si on peut, tu vois. Même si c'est pas un projet technique, mais... Pas juste un concert, quoi. Même si ça pourrait fonctionner, mais...
Mais vous, c'est faire en gros un spectacle augmenté, quoi.
Oui, c'est ça. À ma connaissance, aujourd'hui, ça n'existe pas, en plus avec le compositeur qui est là, qui est dans le truc. Des symphoniques qui jouent des musiques de jeu, aujourd'hui, il y en a quoi. Et moi, c'est pas ça, c'est pas le pivot de la chose.
Mais t'as une idée à peu près, déjà tu m'avais dit vous étiez combien sur scène? Enfin, dans ce projet-là, investi, c'était une centaine, non? Je gonfle, c'est mon côté marseillais.
Un peu moins. Sur scène, on sera à peu près pas loin de entre 50 et 55.
Ouais, j'ai vraiment un côté marseillais.
Après, il y aura l'équipe technique, vidéo et compagnie, donc globalement, enfin sur scène, on sera ça, mais après, il y aura pas mal d'intervenants autour. Hein.
Ouais, donc on y arrive.
C'est le rhum, ça, qui te fait augmenter un peu le comptage.
Exactement, ça peut augmenter. C'est comme je dis,
c'est le comptage augmenté.
Ouais, exactement.
Non, on sera suffisamment nombreux pour que ça soit pas simple à gérer, mais que ça soit hyper excitant. En tout cas.
Comment on arrive à coordonner autant de forces vives, j'ai envie de dire.
Tu gères en amont, par partie. Quand je vais travailler avec l'orchestre, on travaille avec l'orchestre. Après, avec mon groupe, on travaille avec le groupe. Hein. Après, chacun fait son truc quand c'est le moment. En fait, ça ne peut qu'être très écrit, sauf les parties d'improvisation. En symphonie, que tu ne peux pas leur dire, hop, tout à coup, attendez, on refait le truc, le machin. Ils vont dire, attends. Mais il n'empêche qu'il y aura quand même des parties vivantes, enfin vivantes dans le sens improvisation. Ça oui, qui seront prévus. Mais dans la partie d'improvisation, celui qui improvise, il fera ce qu'il voudra.
D'accord. Comme des plages de liberté, de semi-liberté.
Et je suis content parce que j'ai tant de gens autour de moi qui ont le feu sur ce projet.
Et voilà.
Merci.
Les interviews pompettes, ça continue.
Oui, mais là, on prend de l'eau quand même. Je te sers d'ailleurs.
Merci. Non, c'est vrai que
ça fait du bien aussi.
Ça le fait quand même.
Ouais, ça peut aider. Moi, je tourne à l'eau maintenant. Je pense que mon foie me remercie.
Après, celui-là aussi, ouais.
Ces questions de droit, tout ça, machin, tu vas pas être empêché quand même dans ce projet par UBI ou...
Non, tout le monde est très enthousiaste sur ce projet. Maintenant, il y a forcément des questions légales. Il y a utilisation d'une licence. Et Ubisoft, ils ont raison, enfin, ils protègent leur marque, donc tu peux pas en faire n'importe quoi, c'est normal. Parce que déjà, si tu regardes sur Internet aujourd'hui, tu tapes Rayman dans Google Images, t'as de tout, quoi. Hein, t'as des gens qui ont fait du fan art, t'as des gens qui ont détourné le truc, qui balancent du let's play, voilà. Donc, bon, ça va bien jusqu'à un certain point, mais après, si c'est un usage commercial, parce que là, c'est un usage commercial, c'est normal que le détenteur de la marque dise « Attends, ça, tu veux faire, ça, tu peux pas faire. » Ben, c'est normal. Bon, du coup, tu peux pas empêcher tout, parce que tu publies quelque chose, c'est public. C'est la connerie de dire « copyright le truc », non. Tu publies un truc, de toute façon, tu sais que tout le monde peut le prendre. Et tu peux pas empêcher, et en même temps, ça participe aussi à la notoriété...
Ouais, la pérennité de la marque.
Ça fait toujours vivre la marque, donc... Jusqu'à un certain point, c'est acceptable. Mmh. Tu peux pas t'approprier le truc, gagner du fric avec. C'est normal, c'est du droit d'auteur.
Et du coup, si tu fais le fameux live et le fameux album, encore l'album, c'était création, non? L'album, si c'était création sonore, ils ont le droit de te...
C'est eux qui ont les droits.
D'accord, ok.
Moi, je vais refaire des arrangements là-dessus, mais je dois en discuter avec eux.
Et donc, ils sont dans la possibilité de te prendre des sous?
Oui, bien sûr.
C'est...
Oui, puisque c'est leur marque.
Ouais, c'est fou, quoi. La logique du droit d'auteur me dépasse parfois,
mais... Ouais, mais c'est quelquefois c'est un peu obscur, mais en même temps c'est normal que ça soit cadré. Parce que quelqu'un qui a créé quelque chose et quelqu'un d'autre qui le prend pour gagner du fric avec, c'est normal que celui qui l'a créé soit rétribué. Mais que ce soit dans n'importe quel domaine de l'art, c'est normal. Tu prends un tableau et tu l'inclus toi pour faire une pub pour un produit qui n'a rien à voir, mais tu vois, tu as pris quelque chose que quelqu'un a créé, c'est normal qu'il soit rétribué, quoi.
Oui, non, c'est sûr.
Alors c'est pas toujours très clair, surtout pour les gens qui ne connaissent pas ces sujets-là, surtout qu'on est aujourd'hui dans la génération du tout est gratuit, on peut tout prendre, puisqu'Internet, tu
Internet,
peux tout prendre.
Ouais.
En pratique, tu peux tout prendre. Mmh. Maintenant, ça dépend ce que tu en fais. Mmh. Par exemple, un jour, j'ai travaillé, on m'avait commandé pour une mairie la déclaration des droits de l'homme en 3 mètres par 2 mètres. Ben ça, de toute façon, tu ne le trouves pas sur Internet dans cette résolution-là. Il a fallu l'acheter. C'est un musée d'ailleurs qui gère les droits de cette œuvre-là. Donc il a fallu leur commander l'œuvre, payer les droits qu'il faut pour l'utilisation qu'on a voulu, pour le périmètre qu'on voulait. On a payé, après on a eu le... Et après c'est pour 10 ans, et puis voilà, donc après il faut renouveler.
Ah, donc toi le droit d'auteur, tel qu'il existe aujourd'hui, il n'y a rien qui te...
J'ai pas d'avis là-dessus. Parce qu'en général, quand je considère que je n'ai pas assez d'informations pour avoir un avis, j'ai pas d'avis. Donc je ne me force pas à avoir un avis. Ça ne veut pas dire que je m'en fous ou que je suis pour ou contre, c'est que j'ai pas d'avis. Il y a tellement de gens qui débattent sans savoir. Je débats pas pour le plaisir. Polémique pas, j'aime pas la polémique. Donc si à un moment je ne suis pas d'accord mais que je sais pourquoi, je vais le dire. Mais
du coup, tu n'aimes pas la polémique, mais dans ton spectacle, par exemple, tu veux faire voilà, spectacle augmenté. Vous allez en parler en équipe. Si jamais il y a des accords. Comment tu gères ça, toi alors?
C'est un projet que j'ai initié. Donc ouais. Après, les gens qui travailleront avec moi là-dessus, je leur demanderai leur créativité, mais en même temps, ça sera dans le cadre de ce que j'ai prévu. Il y aura des directives que je ne prendrai pas certainement tout seul, parce que je ne prétends pas avoir des avis pertinents sur tous les corps de métier, mais à un moment, on dira non, on veut ça. Ce qui n'empêche pas de proposer des trucs. Après, moi, je suis toujours open, hein, mais... Par contre, quand je me mets au service d'un projet qui n'est pas le mien, là, je me mets au service. C'est-à-dire que je n'apporte pas mon ego surdimensionné. Tu vois, c'est quand il m'arrive de travailler pour d'autres projets, où là, ben, je me mets au service. Quoi. Et là, c'est très clair, c'est identifié. La personne qui a créé le projet, et si j'ai accepté de participer, c'est pour arriver et dire voilà, qu'est-ce que tu veux et comment je peux faire pour voilà. Il y a plein de projets auxquels j'ai participé qui ne sont pas forcément connus. En ce moment, je compose pour un court-métrage d'animation pour une école de 3D, malgré que ce soit des gamins de 20 ans ou 23 ans. J'ai dit on collabore. Je ne pose rien. C'est leur film de dernière année, le gros projet final. Je propose des trucs forcément parce que je suis compositeur, mais j'ai fait déjà 4 versions, tu vois, des trucs.
T'as beaucoup de travail de réécriture musicale, enfin, tu sais, refaire encore des morceaux.
Ouais. Et oui, parce que tu es à poil quand tu composes. Quand tu proposes une création à quelqu'un, qui t'a commandé quelque chose, c'est un moment toujours difficile. Le commanditaire, alors soit il connaît bien le métier, il va t'aiguiller très précisément, soit il voit à peu près, soit il voit pas du tout. Donc il imagine des trucs, il s'attend à des choses, ce qui est une erreur. Donc toi, tu as cru comprendre quelque chose. Lui, il a cru exprimer ce qu'il voulait, mais il n'a pas bien exprimé. Toi, tu as cru comprendre, mais tu n'as pas bien compris. Au total, tu vas produire quelque chose qui peut être super. Il va te dire, ah mais non, mais c'est pas du tout ça.
C'est pas ce que je voulais, en fait.
Bon, il va te dire, ouais, génial. Mais dans tous les cas, tu te mets à poil quand tu proposes une création. Tu vois, t'es tout nu, quoi. Tu dis, voilà. La personne n'est pas forcément, par exemple, ces étudiants-là, ils sont très doués dans la 3D, et la musique, c'est pas leur truc. Donc à un moment, c'est à toi de dire, non mais attends, moi, ça je pense que ça, quand même, ça collera mieux. Tu peux aussi dire, écoute, là, il y a 3 propositions, mais même malgré ce que tu me dis, moi, je crois que celle-là, voilà, après, tu vois...
Je te laisse le choix, mais enfin, celle-là, c'est la mieux, quand même.
Mais quand même, celle-là, elle collerait mieux au niveau des codes de communication que tu veux faire passer, etc. Tu peux aussi proposer. T'es pas juste là pour balancer des notes et puis dire, voilà, vas-y, fais ce que tu veux, quoi.
Et quelque part, il délègue complètement sa confiance aussi. Enfin, il te délègue complètement sa confiance.
Oui, il a confiance. En même temps, c'est tout est histoire d'après de ressenti. Après, il y a aussi des histoires de codes. Si tu fais de musique pour une pub, c'est pas pareil que si tu fais un court-métrage d'animation, etc. Donc tu n'as pas les mêmes façons de faire. Mais la musique, c'est un truc à part. Tout le monde ne peut pas t'exprimer exactement ce qu'il veut.
Ah, c'est fou, c'est... L'élocution, passé 23h. Je sais même pas quelle heure il est. Non, je sais pas. Il est 22h18. Ok. Il n'était pas 23h. Bon, l'élocution passait 22h.
22h17. Ça commence à...
Ouais, c'est dur. C'est toutes ces écoles d'excellence, ça me sidère un peu. J'ai peur que ces écoles-là, elles restreignent la créativité, elles cadrent trop les jeunes.
Ah, ça c'est un sujet qui me... Effectivement, moi j'ai toujours peur de ça. Après, il y a la personnalité de chacun qui fait que tu vas prendre ce qu'on te donne, mais en même temps, tu vas... Parce que moi, j'ai appris aussi à écrire et la musique et à lire la musique avec la théorie de la musique dans nos heures, tu vois, c'est le truc. Voilà. Mais après, j'en ai fait ce que j'ai voulu. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens, mais dans n'importe quel domaine, qui vont dire « Ah mais non, mais dans le manuel, c'est écrit comme ça, donc je fais comme ça. »
S'extirper du manuel.
Je suis pour avoir bien compris ce qu'il y a dans le manuel et puis après, l'oublier, quoi.
De toute façon, il faut avoir des bases.
Il faut ou pas. Tu sais, le meilleur batteur avec qui j'ai joué, c'est un mec qui lit pas une note de musique et puis, putain, franchement... j'ai trippé avec lui, quoi. Et d'ailleurs, c'est lui que je vais, qui va jouer sur mon album. Mais il lit pas une note de musique, je vais pas lui filer les scores, tu vois. Pas grave, pas un problème, tu vois. Donc effectivement, le manuel, le cursus très scolaire, où on te dit c'est comme ça, c'est ça qui est bien. Moi, oulala, en règle générale d'ailleurs dans la vie, quand on me dit c'est comme ça que c'est bien, je dis non, attends, toi tu trouves que c'est bien comme ça. Ok. Mais bon, il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui ont besoin d'un cadre. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, je connais des gens qui ont pris des cours de musique, par exemple, et s'ils n'avaient pas ce cadre où le prof leur disait tu vas jouer ça et tu vas le jouer comme ça, ils se sentaient perdus. Donc, ils préféraient avoir ce cadre. Mais ce n'est pas des gens qui vont composer des choses.
Et voilà, est-ce qu'ils étaient capables après d'aller au-delà du cadre? Non.
Mais non. Mais ils n'avaient pas cette envie non plus. C'était pour se faire plaisir, puis ils étaient guidés, ils arrivaient à faire un truc, à jouer 3 morceaux, ouais, cool. Mmh. Les gens que je connais qui composent, j'en connais pas mal, c'est pas des gens qui ont le manuel ouvert sous les yeux, quoi. Ah non.
Le manuel, c'est anti-créatif, quoi.
C'est bien pour apprendre la théorie, alors après tu vas jusqu'où tu veux là-dedans. Tu estimes, toi, que voilà, tu dois aller jusque-là parce que tu as besoin... Après, il y a des gens qui n'ont pas besoin du tout de ça, mais bon, il y en a qui ont dit... Il y a des gens qui vont dire, bon, ok, j'ai besoin d'aller jusque-là pour maîtriser un peu le truc, et après, je vais faire ce que je veux. Puis, tu as des gens qui vont dire, non, moi, je continue dans le cursus, là, dans le tunnel, quoi. Enfin, oui, pour moi, c'est un tunnel, tu vois. Et ça me va très bien. Eh bien, ok. Mais tu ne vas pas leur demander de créer, comme dans la peinture ou dans n'importe quoi. Hein.
Et là, j'ai envie de passer à un peu la dernière partie... Hein, tout en fluidité, j'ai fait des mouvements de main.
Sans transition.
Des mouvements de main complètement idiots devant mon micro.
Alors, on a fait un mouvement de main très fluide devant le micro. C'était très joli.
Est-ce que tu as des projets qui te. Autres que le Rayman Live, etc., qui sont en train de se former petit à petit?
Il y a le côté électro que j'aimerais développer sur d'autres musiques que celle de Rayman. Après, il y a tout un répertoire que j'ai redécouvert. De mes compos à moi.
Sérieux?
Que, oui, il y a plein de morceaux que j'ai composés il y a 15 ans, 20 ans, ou 10 ans, et que j'avais un peu laissé de côté, et que j'ai réécouté ça, et que c'est vachement bien, et que j'aimerais re-exploiter.
C'est quoi comme style, du coup?
C'est du jazz rock fusion latin, trash poubelle. Après, j'aimerais rejouer en trio, parce que j'adore ça. Après, le côté travailler avec le symphonique, ça me botte bien aussi. J'aimerais, au-delà de Rayman, parce qu'il n'y a pas que Rayman, effectivement. Tout le monde me parle de ça depuis 2 ans, mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que moi, des fois, tu te retrouves un peu enfermé dans un truc, malgré toi, au bout d'un moment, mais non, il n'y a pas que ça, quoi.
Ouais, c'est pas l'horizon indépassable.
Non. C'est super, c'est passionnant, mais il n'y a pas que ça. Et après, la compo pour l'image.
Pour l'image,
ouais.
Pour du cinéma, pour de l'animation.
Cinéma, pour du théâtre, pour de l'image, ouais, du... J'aime le côté plurimédia, voilà. J'ai toujours eu le rêve de créer un espace de création, comment dire, où il y aurait une espèce de noyau de création, des gens qui pourraient venir créer, et à partir de là, voir ce qui peut se passer avec des collaborations en mélangeant les arts. Ouais, la musique, l'image en général. Surtout la musique et l'image. Après, par exemple, la sculpture, c'est pas un truc qui m'attire. Même si il y a des trucs qui sont très beaux, mais voilà. Mais la musique et l'image, ouais. Ça, j'aime, j'adore mélanger ça.
Faire comme un... Alors, je vais utiliser un gros mot. Alors, je pense que c'est même pas celui qui est adapté, là. Une sorte de consortium.
Consortium.
Ouais, un gloubi-boulga. Voilà, c'est vachement plus...
Une marmite. Un truc qui soit en ébullition permanente. Et de laquelle il sortirait des choses. Un espace où je pourrais accueillir des gens en leur donnant des espaces de travail pour qu'ils soient libres de travailler, de créer. Mais ça existe déjà, hein, ça. Dire des fois, tiens, c'est chouette ce que tu as fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc avec ce que je suis en train de penser? Voilà. Créer des choses autour de ça. Comment on peut dire? Pluriartistique, c'est ça? Et la rencontre, toujours la rencontre, évidemment. Ah ben, c'est là, la richesse est là.
Et t'as déjà œuvré dans ce sens-là?
Ouais.
Enfin, chercher, je sais pas, une salle, un local...
Non, c'est les gens, d'abord. Les gens qui sont importants là-dedans. Après, le lieu, ça se trouve, c'est les gens plus importants, la rencontre. Donc j'ai quelques personnes, mais pas énormément. Mais en même temps, c'est pas le but d'en avoir énormément. Et ça se fera, je pense. pour créer des choses librement, voilà, en utilisant tout ce qui est possible aujourd'hui et tout ce que peuvent amener les gens qu'on rencontre. Pas d'a priori, pas de cadre. Voilà, je crois à ça, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de rassembler les gens que j'aime, un groupe, un collectif. Un collectif dirigé, je sais pas comment on peut dire ça, parce que je veux pas que ça soit le genre, je suis le chef et tout ça, mais en même temps, je veux pas non plus que ça soit le bordel horizontal.
Il faut une idée commune, en fait, un but commun.
Une énergie commune, on va dire, et une envie de partager. Donc ça se fera, puisque ce qui doit se faire, se fera. Merci.
Ici. Voilà.
Merci. Je te sers de l'eau, quand même. Avec le, c'est pour le café, hein.
Ça fait genre... Et tiens, moi aussi, j'ai commencé une série, là.
Ah ouais?
Ouais.
C'est quoi?
C'est les parcours improbables.
Les parcours improbables?
Ouais. C'est un truc qui me tient à cœur depuis longtemps, et j'en ai fait un. J'ai envie de faire des reportages, des docus, sur des gens qui sont aujourd'hui, qui font un truc, mais qui ne viennent pas du tout de là.
Comme moi, un peu, quoi.
Je sais pas si c'est... À la base, c'est pas pour ça, mais enfin, finalement, ça... Et j'adore ça. J'adore les gens qui... Tu te dis, mais putain, d'où tu viens, toi? Raconte-moi ça, quoi. T'es là, mais tu viens pas du tout de là, voilà. Moi, ça me... Un truc atypique, quoi. Voilà. Tu remets un café?
Non, moi, ça me va. J'ai appris plein de trucs. J'espère que ça t'a plu, aussi.
Non, très agréable.
C'est gentil, c'est le but. C'est le principe.
Tu as le coup pour mettre les gens à l'aise. Je change rien.
C'est gentil. Pardon, je sais qu'il faut pas dire ça, mais ça me fait plaisir en tout cas. Voilà. Je dirais pas c'est gentil, mais je dirais merci.
Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. Au montage, bidouillage, mixage, voyage, votre serviteur, Marion Barjaki, habillage sonore, Mathieu Casanas. À très bientôt.